Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, de plus en plus de loyers impayés à cause de la crise.
Avec des nouveaux profils, des étudiants et des indépendants. Explication dès le début de ce journal. Nicolas Sarkozy dédouané dans l'affaire libyenne par son principal accusateur. Et puis on reviendra sur la défaite des Bleus face à la Finlande 2-0. Un accident de parcours, nous dira notre consultant Robert Pires.
RTL Matin.
C'est un phénomène qui en dit long sur la crise que nous traversons et la pauvreté qui gagne du terrain en France depuis le coronavirus. Le nombre d'impayés de loyers progresse et surtout de nouveaux profils sont concernés. Arnaud Touche.
Oui, c'est une tendance qui a commencé dès le premier confinement, comme le détaille Thomas Reynaud qui gère GarantMe, une société qui se porte garante des locataires.
Oui, on a été témoin d'abord au printemps, en mars et en avril, d'une augmentation des impayés et ensuite d'une seconde vague d'impayés au mois d'octobre, avec là, début novembre, une tendance qui continue.
Et depuis, la typologie des locataires a changé.
Habituellement, c'est plutôt des personnes employées en province qui sont en impayés chez nous. Et là, on voit avec le Covid qu'on a de plus en plus d'indépendants ou d'étudiants qui ont un emploi à côté de leur étude qui tombent en impayés.
Et désormais, certains propriétaires inquiets par la crise économique à venir prennent déjà conseil auprès de Frédéric Dupuis de chez Legal City, une plateforme de recouvrement.
Ils anticipent l'arrivée de l'hiver. Les plans sociaux, surtout, dont on parle actuellement, qui annoncent surtout une vulnérabilité plus forte des particuliers. Ces demandes sont, et ces contacts sont de plus en plus importants.
Les grands groupes immobiliers comme l'Adresse n'observent pas pour le moment une cascade d'impayés, mais s'attendent néanmoins à des situations particulières dès l'année prochaine.
Arnaud Touche, je me tourne vers vous, Christophe Ponzio. En quelques mots, dites-nous quelles sont les aides dont peuvent bénéficier ces locataires en difficulté.
Alors, première aide, un chèque de 150 euros par mois mis en place par Action Logement pour les chômeurs et salariés du privé qui gagnent moins de 1 SMIC et demi et dont les revenus ont baissé avec la crise. L'aide peut être renouvelée pendant 2 mois maximum. Ensuite, pour les étudiants et les jeunes de moins de 30 ans, la garantie Visal permet de couvrir les loyers impayés pour les propriétaires. C'est gratuit. Enfin, un accès au fonds de solidarité pour le logement doté de 350 millions d'euros est possible. Pour mieux vous orienter, l'idéal est de contacter le numéro vert SOS Loyers Impayés au 0805 16 00 75.
Merci beaucoup Christophe. Eux aussi ont du mal en ce moment à assumer leurs dépenses courantes. Ce sont les commerçants qui espèrent une réouverture rapide. Ce ne sera pas pour tout de suite. Jean Castex qui fera un nouveau point sur la situation ce soir pourrait néanmoins laisser entrevoir une reprise de leur activité fin novembre ou début décembre si le ralentissement des contaminations se confirme. Une reprise très attendue, en tout cas, dans cette boutique du centre de Lens où s'est rendu Franck Hanson.
La vitrine de Noël est déjà installée dans cette boutique de déco et art de la table bien connue à Lens. Histoire de rêver un peu, Denis Pierre et Olivier Cariou, les gérants, s'occupent derrière le rideau fermé, inquiets pour les prochaines semaines, avec plus de 50 000 euros de marchandises à vendre.
C'est quand même assez compliqué parce qu'on fait le gros de notre chiffre d'affaires sur la fin d'année. Noël, c'est une période qui représente à peu près 30%. Les cadeaux commencent dès le mois de novembre, forcément. On a un frein énorme, ça va être très difficile de le rattraper. Là, je suis autour de 20% de mon chiffre d'affaires que je devrais faire. C'est complètement frustrant.
Pour autant, ces commerçants sont bien conscients de la crise sanitaire.
Faut pas faire n'importe quoi, la santé c'est primordial. Je ne fais pas partie des gens qui réclament une ouverture immédiate. Ce serait réellement dangereux et même économiquement parlant, parce que si c'est pour que la situation empire et que là on soit complètement obligé de fermer pendant le mois de décembre, ce serait encore plus grave.
Olivier entend tout faire pour garder ses quatre employés.
Nous, on veut pas sacrifier les emplois. On a recours à des contrats d'apprentissage. Je veux dire, les jeunes, on les suit. Je ne me paye pas tous les mois. Je n'ai pas droit au chômage partiel. C'est mes employés avant tout. Moi, je me sacrifie, mais voilà, je m'en fous. C'est mon boulot.
Pour l'instant, les ventes par Internet permettent un peu de limiter les dégâts.
Reportage signé Franck Hanson à Lens.
Alors, soyons clairs, aujourd'hui, la pandémie a fait plus de 42 500 morts dans notre pays.
Et aujourd'hui, une personne testée sur 5 est positive. Vous savez que vous pouvez désormais bénéficier de ces fameux tests antigénique dans les pharmacies avec un résultat en quelques minutes seulement. Mais pour faire face à la demande qui est grande, les officines ont de plus en plus recours à des étudiants en médecine, comme ici, dans le 17e arrondissement de Paris, Agathe Landais.
Oui, une pharmacie qui fait des tests depuis le début de la semaine, nous explique Rodney, le gérant.
Dans l'équipe, on n'est pas très nombreux. Et on était obligé de prendre quelqu'un d'extérieur qui n'était dédié qu'à ça.
Et pour trouver quelqu'un en urgence, il est passé par StaffMe, un site qui met en lien des étudiants et des professionnels.
En une demi-journée, c'était déjà trouvé. C'est StaffMe qui gère tout le côté logistique de la rémunération, des papiers, des contrats. Et ça, c'est un atout non négligeable parce que là, en l'occurrence, en ce moment, j'aurais pas eu vraiment le temps de m'en occuper.
Vous avez beaucoup de monde, du coup, qui vient se faire tester?
On en a de plus en plus, 80 par jour. Si on n'avait pas eu une personne extérieure, on n'aurait pas pu les faire.
Et ce renfort se trouve juste devant la pharmacie, sous une petite tente rouge. Jenna, 27 ans, est étudiante en médecine.
J'ai des horaires un peu flexibles, donc je suis contente de le faire parce qu'au moins je me rends utile et c'est toujours bien, quoi.
Vêtue d'une blouse bleue, Charlotte sur la tête, Jenna porte aussi un masque, une visière et des gants.
Monsieur, bonjour. Je vais essayer de la tête en arrière. Ça fait pas mal, c'est juste que c'est désagréable. Il faudrait surtout pas bouger.
Coton-tige à la main, elle enchaîne toute la journée les tests antigéniques.
Voilà, c'est terminé.
Merci, donc dans 10 minutes.
Dans 10 minutes pour le résultat. Donc là, je touille pendant 10 à 15 secondes et je laisse poser pendant 2 minutes. J'ai dû en faire une quarantaine depuis ce matin. Oui, c'est énorme, mais là, la journée, elle n'est pas finie. Donc je pense que ce soir, le chiffre aura déjà doublé avec les personnes qui sortent du boulot, justement.
Et Jenna testera encore des centaines et des centaines de personnes car elle va rester en renfort dans cette pharmacie au moins jusqu'à début décembre.
Reportage d'Agathe Landais. Les Français respectent mal le confinement. D'après un sondage IFOP, 60% d'entre eux reconnaissent abuser des attestations pour aller voir par exemple des amis ou de la famille. 60%, c'est 27 points de plus qu'en mars-avril. Dans un instant, l'étrange volte-face de Ziad Takieddine, l'homme qui accusait Nicolas Sarkozy d'avoir reçu des fonds libyens pour financer sa campagne de 2007. Restez avec nous.
RTL Matin.
Il est 8h07, la suite du journal de Jérôme Florin. Que faut-il penser des dernières déclarations de Ziad Takieddine? L'homme d'affaires est le principal accusateur de Nicolas Sarkozy dans le dossier libyen. Il affirme depuis 8 ans que l'ancien président a reçu de l'argent de Kadhafi pour financer sa campagne de 2007. Nicolas Sarkozy a même été mis en examen le mois dernier dans cette affaire pour association de malfaiteurs. Mais le dossier est-il en train de faire pchit? Ziad Takieddine est en fuite au Liban, d'où il affirme à présent que pas un centime n'a été versé. Il s'est confié au journaliste de Paris Match, François Delabarre.
J'ai passé 2 jours avec lui, c'était assez éreintant. Il donne une version et puis il en donne une autre. C'est un personnage qui est quand même très complexe. Dans l'article que j'ai écrit, on prend beaucoup de distance avec ce qu'il nous explique. On insiste bien sur le fait que c'est quelqu'un qui a varié, qui a donné plusieurs versions et qui aujourd'hui encore donne une version différente. Il a essayé de dérouler un scénario qui allait complètement à contre-pied des scénarios qu'il a pu dérouler précédemment. Et puis on s'est revus le lendemain à Beyrouth. Et là, quand il a fallu poser des questions pour lui demander pourquoi il avait changé de version, il était beaucoup plus difficile. Il ne voulait pas admettre qu'il avait tenu des propos totalement contradictoires pendant ces dernières années, alors que c'est écrit partout. Je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui pouvait tenir un discours et puis le lendemain un autre, et qu'il faut être très naïf pour penser arriver et tout d'un coup, lui, livre une vérité servie sur un plateau.
Un propos recueilli par Valentin Boisset. La vérité éclate enfin, écrit Nicolas Sarkozy dans un communiqué. Il réclame sa démise en examen. Aux États-Unis, la drôle de guerre continue entre Donald Trump et Joe Biden. L'un s'accroche, l'autre se prépare. Biden a même déjà nommé son chef de cabinet. Lui et sa future vice-présidente s'activent. Kamala Harris, nouvelle star des anti-Trump, a passé, on le sait peu, une partie de sa vie au Canada et notamment dans ce lycée de Montréal où s'est rendu pour RTL Alexis Gacon.
C'est entre deux cours, à la Westmont High School, que Trevor a rencontré Kamala Harris au début des années 80. Elle arrivait de Californie, les deux ados sont vite devenus amis.
Elle était très impliquée dans l'école, elle chantait dans des comédies musicales, elle était extrêmement intelligente. On se rendait compte qu'elle avait quelque chose de spécial. Elle va être excellente à la Maison Blanche, parce qu'elle était déjà extraordinaire quand on était enfant. Kamala, je ne suis pas surpris, tu vas changer le monde.
Sabrina est professeure à la Westmont High School. Pour elle, le fait qu'une ancienne étudiante de l'école soit à la Maison Blanche, ça aide à motiver les élèves.
Elle a brisé plusieurs plafonds de verre. C'est une première femme vice-présidente, une femme noire. Elle a été formée dans cette école publique. Cela ouvre des possibilités pour mes étudiants qu'ils n'avaient même pas envisagées, même si pour beaucoup, la priorité, c'est de devenir YouTuber.
Gary, 17 ans, étudie à Westmont. Il suit toute la carrière de Kamala Harris. Et pour lui, pas question d'être YouTuber.
Mon Dieu, c'est extraordinaire. It's really inspiring.
Je pense que je vais me présenter pour devenir Premier ministre un jour. Mais je ne sais pas si j'ai tout ce qu'il faut en main.
Reportage signé Alexis Gacon. À Buenos Aires, Maradona est sorti cette nuit de l'hôpital. Il y était depuis 8 jours après une opération pour un hématome à la tête.
Nos champions du monde, eux, paraissaient bien palichons hier soir au Stade de France.
Oui, beaucoup de cadres des Bleus étaient absents. Ils se réservent pour le match de samedi contre le Portugal. Et ça s'est vu, défaite 2-0 contre l'équipe B de la Finlande en match amical. Ça fait mal pour Didier Deschamps.
On a pris une bonne gifle. Je ne vais pas m'attarder
trop dessus de temps en temps. Une leçon, ça fait pas de mal.
Ça fait pas de mal. Un accident de parcours pour Robert Pires, notre consultant.
On s'attendait à plus, à mieux. Et puis on s'aperçoit que certains joueurs sont fatigués, sont émoussés, d'autres ne jouent pas. Donc quand ils reviennent, c'est pas facile de retrouver le tempo ou alors le rythme. Sur les 28 premières minutes, ça s'est très bien passé. On a eu des bonnes opportunités de la part de Marcus Thuram. Puis ça s'est déclenché en notre défaveur. Ça a été vite, contre-attaque, bien mené. Et puis surtout, après, en fait, c'est la réaction. Elle n'a pas eu lieu. Au contraire, c'est la Finlande qui a réussi à nous faire mal une deuxième fois avec un joli but. Et puis après, aucune ressource pour revenir ou tenter de revenir au score. Et c'est vrai que sur ce point-là, Didier, il a beaucoup de travail encore. Ah, je ne suis pas inquiet, on ne doit pas être inquiet. Je crois que c'est un accident de parcours. De toute façon, il fallait bien que ça s'arrête un jour. Il faut évacuer, il faut parler aussi. Dire ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas fonctionné. Maintenant, on le sait tous. Le plus important, c'est samedi face au Portugal parce que c'est la finale. Donc, il faut bien se préparer. Mais c'est délicat, c'est compliqué parce que les joueurs ont déjà fait beaucoup de matchs, beaucoup d'efforts, beaucoup de voyages. Pas tant de récupération. Mais disons qu'il faut vite se remobiliser et puis se concentrer parce que ça sera aussi d'un autre niveau.
Robert Pires avec Philippe Sansfourche. Et puis, on ne saurait finir cette page foot sans évoquer la disparition à 84 ans de l'arbitre Charles Corver. C'est lui qui avait officié lors de la fameuse demi-finale du Mondial 82 France RFA. Yann Boucherie.
Vous voyez, ce 8 juillet 82, le Néerlandais est passé à la postérité en ne sifflant pas l'agression de Schumacher, le gardien allemand sur Patrick Battiston, sous les yeux de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet.
Bonne balle de Platini pour Battiston. À côté. Aïe, 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 c'est pas vrai. Eh oui, que voulez-vous, monsieur Corver? Honte à vous. Il a pissé le cœur. Quand on est à 10 mètres de l'action, on ne peut pas se laisser abuser par ce genre de jeu.
Et l'impartialité du Néerlandais a été mise en cause. La France avait éliminé les Pays-Bas en barrage et le patron des arbitres à la FIFA était à l'époque un Allemand. Tiens, tiens, Charles Corver, lui, a toujours défendu sa probité. S'il y avait eu la vidéo, j'aurais pris la bonne décision, a-t-il concédé par la suite. Le monsieur a rangé son sifflet un an plus tard, en 1983, pour se consacrer à son autre métier, directeur des ventes chez Heineken.
Ah oui, un autre monde. Merci beaucoup, Yann Boucherie.
J'ai remarqué qu'on s'est retenu du moindre commentaire. On termine avec l'histoire du jour.
Roméo et Juliette, version Covid en Italie. Cette scène très émouvante, Stefano, 81 ans, s'est installé sur une chaise dans la cour en bas de l'hôpital où se trouve sa femme. Il ne peut pas lui rendre visite à cause des restrictions sanitaires. Alors sous sa fenêtre, il joue la sérénade à l'accordéon. Comme l'écrivait Shakespeare, l'auteur de Roméo et Juliette, la musique est l'aliment de l'amour.
Merci Stefano.